Bonjour, c'est Portrait, une émission proposée et animée par Claire-Lise Chaubelet. Chances
are... C'est Manu Lanvin qui est notre invité aujourd'hui dans Portrait. C'est au festival Mosaïque, Musique du Monde, que Radio Albatros a planté ses micros. Ce festival a lieu chaque année en juillet au Jardin Suspendu du Havre et cette année c'est le 10e anniversaire. Vous l'avez compris, j'ai un invité, un musicien hors du commun. Manu Lanvin, bonjour. Vous chantez du rock, mais vous aimez aussi le blues.
Je pense que ça va ensemble. Willie Dixon disait « The blues is the root, the rest are the fruits ». Le blues a donné racine à tous les courants musicaux importants de ces dernières décennies, que ce soit la soul, la funk music, le rock and roll, même la dance music, même la disco. Bien évidemment, tout ça vient du blues, vient de ces chants indirectement importés de l'Afrique et que les agriculteurs black américains chantaient pour essayer de se trouver une alcôve de liberté dans ces états difficiles, les états du sud des États-Unis.
Une alcôve de liberté. Nous sommes justement dans une alcôve des Jardins Suspendus. Vous avez dit en rentrant ici, c'est un peu chelou. En fait, c'est un ancien fort ici, c'est spécial.
Je sais, non, mais c'est surtout l'exposition. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y avait un peu d'anatomie. J'ai pas fait attention et j'avoue que je suis assez sensible. J'aime pas trop la biologie. Je me rappelle m'être évanoui au premier cours de sciences naturelles lorsqu'on explorait le corps humain. Ça m'avait fait tourner la tête et j'étais tombé dans les pommes. Alors, dès que je revois ça, je reviens comme ça dans mon enfance et ça me plaît pas beaucoup.
Manu Lanvin, vous avez joué au MacDead, le MacDead que l'on connaît ici au Havre. C'est un petit lieu. Et vous avez joué dans toutes sortes de lieux, y compris dans des campings, au coin des rues.
Mais le blues, c'est une musique qui se joue là où on peut, quoi. Parce que c'était une musique qui permettait à l'époque de s'en sortir. Muddy Waters avait compris, ou Robert Johnson, que en jouant devant sa communauté, il pouvait gagner $3 par jour au lieu $1 en travaillant dans les champs de coton. Donc finalement, la musique leur a procuré un passeport pour la liberté. Puis après, ils ont rêvé d'être signés peut-être dans les labels du nord des États-Unis. Certains ont eu la chance de pouvoir migrer, avoir de quoi prendre un train et se tailler la belle et essayer peut-être de vivre dans un état où vous allez être vraiment considérés comme des citoyens américains. C'est le début de l'industrie de la musique. C'est la fin, on y est arrivé presque, de la ségrégation. Ça a mis du temps tout ça. En même temps, c'était il n'y a pas si longtemps, quoi. C'est ça qui est tragique dans l'histoire, dans notre histoire, dans notre période de cette civilisation dans laquelle nous sommes aujourd'hui.
On va écouter un premier morceau de musique que vous avez choisi. Il s'agit de « Je suis le diable ». Vous nous présentez, vous nous expliquez certains détails pour que les auditeurs puissent rentrer dans le morceau.
Je suis le diable, je me suis toujours beaucoup amusé avec ça. Ça me rappelle beaucoup de choses. Déjà, Robert Johnson a vendu son âme au diable et le diable lui a donné le blues en échange. Nous, guitaristes, on a toujours été à la quête de ce crossroad et on s'est toujours dit qu'on aimerait bien faire ce deal, ce pacte avec le diable. Alors, c'est quelque chose d'assez redondant qui revient souvent dans mes textes. Je joue avec. Puis, il y a certains événements comme les événements du Bataclan qui m'ont un peu choqué, interpellé, parce que la musique n'est pas l'ouvrage du diable, je ne pense pas. Et aujourd'hui, dans certains courants religieux, comme ça l'a été aux États-Unis aussi dans certains États, sortir une guitare, faire du rock'n'roll, et c'est juste d'éclater les gens pendant 2-3 heures de concert pour les rendre heureux, c'est mal vu. Aujourd'hui, dans certains pays, comme l'Iran par exemple, les femmes ne peuvent pas chanter. Tout ça, je trouve ça très choquant, je trouve ça révoltant. Parce que je ne comprends pas en fait le fondement de tout ça, quoi. Voilà, j'ai voulu faire un pied de nez. En fait, je préfère être le diable finalement que tous ces imbéciles qui interdisent la musique ou la condamnent ou rentrent dans un Bataclan armé jusqu'aux dents et dessous des jeunes qui sont juste venus choper un peu de bonheur, quoi.
On entend une musique en off. Vous connaissez le musicien qui est là, juste derrière. Ouais. Et du coup, voilà, ça donne une ambiance particulière à cette interview.
Bien sûr, ouais, moi j'adore ce que fait Matt, j'adorais dans les montagnes Maine, je trouvais super. C'est un mec aujourd'hui qui a reconstruit son chemin tout seul. Je sais qu'il a plein de beaux projets qui arrivent et j'aime bien les soutenir, les copains. Alors c'est des copains qu'on croise comme ça rapidement parce que on se croise tellement, nous artistes du blues et du rock'n'roll, sans jamais vraiment avoir le temps de se parler, mais c'est toujours cool d'aller serrer la main d'un copain en disant vas-y. éclate-toi ce soir, fais un bon geek, quoi.
On écoute ce morceau et puis juste après, on va découvrir quelque chose que vous avez tatoué sur votre peau.
Ils disent que je suis le diable quand je branche ma guitare, que ma musique est noire quand le jour devient soir. Ils disent que je suis l'orage lorsque je pleure le monde, l'amour et ses déboires, et que ma pluie fait rage. Mais c'est chanter le diable. Je ne suis jamais sage, non, mais toujours adorable. Elle m'appelle le diable, car la nuit est insatiable. Mais suivant mon destin, je prends le large au matin. Et c'est jouer le diable.
Manu Lanvin qui est notre invité aujourd'hui dans Portrait. Manu Lanvin qui est guitariste, chanteur, blues, rock, que vous connaissez bien sûr. Alors je vais éviter la question, il vient d'enlever son blouson, c'est ça que vous venez d'entendre. Il a posé son blouson sur une table juste derrière. Et, je vais éviter la question qui tue, celle qu'il déteste certainement. Votre père, c'est Gérard Lanvin. Est-ce que ça vous a aidé, etc. etc. Je sais que ce n'est pas un sésame. Donc on va passer la question. Vous m'en êtes reconnaissant.
Non, mais vous pouvez en parler, je ne renie absolument pas ma famille.
Ah non, non.
Ça pourrait.
C'est pas du tout ça.
La seule chose qui me gêne toujours, c'est qu'on oublie ma maman. Et ma mère a été chanteuse, elle a quand même été disque d'or à une époque dans le disco, c'était une des reines du disco comme ça. Et finalement, c'est elle qui nous a beaucoup alimenté à la maison, mon père et moi, mon père et mon frère aussi. De musique, mon frère est DJ aujourd'hui, et je pense que cette vibration comme ça de la musique, même des groupes de rock et les artistes qui traînaient à la maison, c'était beaucoup lié à l'énergie de ma mère qui du fait qu'elle ait été musicienne et chanteuse, avait un environnement de musiciens. Je pense à Téléphone qui venait à la maison, le groupe Corinne Mariano, Paul Personne, Bernie Bonvoisin. À l'époque, il y avait des groupes dont j'ai plus les noms, mais je me rappelle d'un batteur qui s'appelait Plume. Oui, il avait une plume tatouée sur son épaule. C'était un super batteur. Ces musiciens, les musiciens de ma mère, qui m'ont transmis quelque chose. J'avais le droit de passer et jouer un peu de batterie lorsque j'avais 5 ans. Donc ça vous donne déjà des prédispositions.
Justement d'ailleurs, alors on va y venir juste après à ces tatouages magnifiques, mais vous avez fait un facturing avec Paul Personne.
Ouais.
Qui est-ce qui rit à la fin?
Qu'est-ce qui rigole à la fin?
Je suis le diable.
C'est moi qui rigole.
Ah, parce que ce rire-là, j'ai réécouté plusieurs
fois. Ah bon?
Mais oui. Il donne une ponctuation au morceau qui est...
Ah bah oui. Oui, vous avez bien compris que je m'amuse avec ça, je suis un gentil diable. Un jour, j'avais rencontré des sœurs dans un hôtel qui était vraiment mitoyen à une sorte de couvent. Et elle m'avait interpellé parce qu'elle voyait que je jouais de la guitare, pas loin de la croix de Jésus-Christ, je me rappelle. Et elle y voyait aucun mal à ça, justement. J'ai trouvé ça super chic de sa part. Elle était venue me voir, puis elle avait vu que j'avais écrit le diable là-dessus. Et elle a tout de suite interprété différemment. Elle dit, vous savez, on a tous le malin en nous. Et... Moi, j'ai bien aimé son approche de la chose, quoi.
Vous avez des tatouages, Manu Lanvin,
ouais.
Sur les bras. Enfin, ouais. En tout cas, c'est ceux que je vois. Hein. Donc voilà, vous êtes en débardeur. Vous avez un crâne ici sur le côté.
Oui.
Avec, c'est un personnage qui joue de la guitare.
Qui joue du banjo. Qui joue du banjo.
Ah oui, mais il était sur le côté, désolé. Hein.
Qui joue du banjo et de la grosse caisse. Un peu comme fait Matt, tu vois, en ce moment-là. Tu vois, enfin, il a une guitare, lui, mais ça, c'est tous les mecs qui faisaient de la musique et qui avaient une grosse caisse au pied, une charlet dans l'autre, jouait de l'autre pied, une guitare, et comme ça. Lui, c'est un peu mon ange gardien. C'est celui qui m'a guidé jusqu'à là. C'est lui que j'ai trouvé sur la route 61 et qui m'a montré un peu le chemin. J'avais besoin, à un moment donné, de me positionner un peu plus dans mes choix de faire de la musique et d'être musicien et de surtout poursuivre comme ça l'histoire des anciens. Et, Et je ne sais pas si c'est un truc initiatique que j'ai fait, je ne l'explique pas encore, mais ce personnage-là, ce vieux papy ou ce mec, cet ange gardien m'a montré le chemin.
Moi, je vois beaucoup les crânes comme ça comme des vanités, c'est-à-dire le lien avec l'histoire de l'art.
Peut-être dans le curieux art et tout ça, on y retrouve peut-être des choses, non, mais je sais que c'est un personnage qui n'est plus vivant, mais qui est un esprit bienveillant comme ça, qui me montre le chemin.
C'est toujours délicat de me poser des questions sur les tatouages, parce que ce sont des choses très personnelles la plupart du temps, qui ont un sens qui vous appartient.
Ouais.
Là, il y a de la musique, hein, de l'autre côté aussi, il y a de la musique.
Oui, mais là, c'est l'autre penchant. Vous savez, si vous regardez, moi, j'ai toujours été animé par cette route, la route 61, qui est la route qui remonte les États-Unis, qui longe le Mississippi. Cette fameuse route dont je vous parlais au début de l'interview, cette route que tout le monde a voulu emprunter pour justement se libérer des états difficiles. La musique a ce truc formidable, c'est que ça peut être pour certains un passeport pour la liberté. Et vous remarquerez que j'ai les deux côtés de la route, le nord de la route 61 et un paysage de la route, enfin de la route 61, mais dans le sud.
D'une finesse absolue, ces tatouages.
Ouais, Jean-Luc Navette, ça, c'est un illustrateur incroyable qui connaît très très bien l'histoire du blues, qui connaît très bien l'histoire en général, et avec qui on n'a pas déliré, mais il y a eu des événements qui sont passés. On a décidé de les inscrire, comme moi étant tout petit, là, vous voyez, avec mon Curious George que j'ai retrouvé.
C'était une peluche que vous aviez ?
Oui, qui était mon copain d'enfance.
Elle est cassée, hein, elle est presque sous le bras. Donc on la voit, hein, si vous faites des gestes.
Ouais. Oui, mais je l'ai retrouvée, cette peluche-là, accrochez-vous. Lorsque, avec mon copain, là, qui est là, mon pote, là, Alexandre, on est allé à Pomonkey, un des derniers juke joints de la Route 61, un dernier perdu au milieu du Mississippi. On a mis du temps à le trouver. Il n'existe plus maintenant, cet endroit. C'est une sorte de shack, quoi, de petite baraque en bois, tu vois, dans laquelle les gens venaient faire de la musique, danser, boire un verre, de manière même un peu illicite, souvent. C'est quelqu'un qui reçoit les gens chez lui, quoi. Et on est rentré dedans, il faisait nuit, on a eu du mal à trouver l'endroit, oui, c'est sûr. Et une fois qu'on l'a trouvé, on a eu peur d'y rentrer. On s'est dit, qu'est-ce qu'on va trouver derrière ? Quand le patron des lieux, Po, nous a ouvert la porte, j'avais pas compris que Po Monkey, ça veut dire Poor Monkeys, et ce qui expliquait que sur le plafond de ce shack, il y avait des peluches de singes qui faisaient la décoration magnifique et totalement baroque et débridée de ce lieu-là. Et qui j'ai vu en premier ? J'ai retrouvé ma peluche d'enfance, Curious George, avec la casquette et le même œil crevé qu'il avait, car c'est moi qui lui avais crevé l'œil en me battant avec lui. Et je me suis dit, ici c'est ma maison, ici peut rien m'arriver parce que j'ai Curious George qui veille sur moi.
On va écouter un deuxième morceau de musique que vous avez choisi, Manuel Lanvin. Il s'agit de...
The Devil Does It Right, donc dans le dernier album, avec Beverly Joe Scott, qui a accepté de me donner la réplique sur ce morceau. Beverly Joe Scott est pour moi une énorme chanteuse de blues. Elle est énormissime dans le sens, son talent est énorme, sa voix est incroyable, et ça a été d'une grande facilité de collaborer avec elle sur ce morceau. Vraiment, elle m'a énormément épaté en studio.
Juste après, nous allons essayer de comprendre avec vous pourquoi vous avez bifurqué vers la guitare.
You call me angel when I'm in, and the devil when I'm gone. I'm Mr. Right in your bed, but your mama call me Satan's son. Baby, I'd leave you if I could. Seems like we only fuss and fight. Thank you.
C'est Manu Lanvin qui est notre invité aujourd'hui dans Portrait. Manu Lanvin, vous avez fait de la batterie au départ.
Oui.
Et puis ensuite, la guitare, c'était parce que c'était plus pratique.
La batterie, oui, c'est difficile à transporter d'un lieu à un autre, déjà. Ça fait beaucoup de bruit. Alors, les parents, ils aiment bien ça, mais si on n'a pas la cave adéquate, bien insonorisée, on peut vite leur prendre la tête. Et c'est vrai que très vite, mon père m'a dirigé vers un instrument plus silencieux, mais surtout un instrument qui existait, qui était au pied, qui était dans un fly case, dans le salon, et que je n'avais pas encore vraiment ouvert, qui était la guitare de Marchalombe, d'ailleurs, celle que le producteur lui avait remise à la fin. Alors, souvent, les gens, quand j'écris ça sur les réseaux sociaux, disent « Ouais, mais elle a été cassée. » Oui, ils en avaient plusieurs sur le film. Il y en a une qui n'a pas été cassée, pour ce qu'on appelle les raccords, souvent dans le film, et entre les scènes, puisqu'on ne tourne pas un film de manière chronologique. Et cette guitare, donc, avait été sauvée, et ça a été mon premier instrument à cordes. Et il m'a dit que ce qui était intéressant avec cet instrument-là, c'est qu'on pouvait... ça pouvait nous accompagner partout dans nos voyages. Et ça m'a parlé. Je me suis dit, ah, c'est vrai, on peut voyager avec cet instrument. Certes, c'est une deuxième valise. Avec un bon sac à dos, une guitare, on peut peut-être... l'aventure peut commencer.
Vous avez été comédien,
vous ? Oh non.
Ah bah si, vous avez joué dans Les Lyonnais avec le film d'Olivier Marchal.
Non, je suis à la comédie ou à l'actorat, ce que Patrick Bruel est au rock'n'roll, quoi, une sorte d'escroc, quoi, fini. Enfin, il faut dire les choses comme elles doivent être dites. Non, là, c'était un...
Quand... Vous avez fait des musiques de films.
Oui, j'en ai fait, ça, j'adore. J'adore faire de la musique à l'image, ça me plaît. Là, c'était la circonstance, quand Olivier Marchal, qui est un mec super, vient vous voir, et de manière sympathique, en fait, vous demande... Manu, tu voudrais pas jouer le fils de ton père dans le film, puisque je joue le fils de Momon Vidal.
C'est quand même une petite ressemblance.
Je dis bon, allez, allons-y, je dis faisons-le. Et puis voilà, et c'est comme ça que ça s'est fait. Je dis tiens, ça c'est un truc qui restera gravé à tout jamais. Même ma fille, elle aura ce souvenir. Elle a ce souvenir de son grand-père qui joue dans un film avec son père. Je trouve ça plutôt marrant, quoi.
Vous avez dit avant, les artistes attendaient que ça décolle en radio avant de tourner. Et moi, je fais l'inverse.
Oui, j'ai construit le chemin du David Blues à partir de 2012 avec Jimmy, mon batteur. À l'époque, avec Gabi à la contrebasse, on est parti de rien, comme vous le racontiez tout à l'heure. On jouait partout, dans les campings, les restaurants, les bars, partout où on pouvait. On a décidé de prendre le maquis parce que j'ai vu que le système musical français n'était pas prêt à encourager un artiste de blues, un artiste français qui fait du blues. Cette musique qu'on attribue trop facilement et de manière un peu très naturellement aux anglo-saxons, aux américains surtout et aux anglais, on comprend pas trop encore, même s'il y a des artistes incroyables en France. Alors je me suis dit c'est pas grave, on va aller jouer pour les gens, on va faire finalement ce que faisaient les musiciens avant, ces troubadours qui allaient de ville en ville. On va implanter notre spectacle partout où on nous laisse un petit espace, une prise de courant, et on va construire notre histoire. Et c'est ce qui s'est passé avec le Devil Blues.
Alors, grand écart, vous avez joué avec Johnny,
ouais,
en 2015.
Ouais.
Et alors, c'était comment ?
C'est génial. J'avais déjà ouvert pour lui en 2000, lors d'un premier album solo que j'ai fait.
Ouais, je voulais parler juste du plus récent, mais en effet, c'est
vrai.
Une longue histoire.
J'avais déjà joué ouvert la série d'Olympia qu'il a fait, donc à l'Olympia à Paris. Mais il m'a rappelé, on s'est recroisés, on s'est retrouvés. J'ai souvent perdu de vue Hallyday et moi. Et on s'est retrouvés à Saint-Barth, totalement par hasard, parce que moi je jouais, chaque été j'animais un festival, le Saint-Barth Family Festival, durant lequel je jouais chaque soir dans des établissements différents de l'île. Et à chaque fois que je faisais escale dans cette île des Caraïbes, et qu'il savait que je jouais le soir, il réservait sa table et il venait me voir jouer, quoi. Ce qui est plutôt super chic de sa part, parce que honnêtement, il y a des sollicitations, il y en avait partout. Moi, je ne le sollicitais même pas pour ça. Mais dès qu'il savait que j'étais là, il me faisait l'honneur de venir. Et c'était chouette de l'avoir avec moi. Et jusqu'au bout, hein, jusqu'au dernier été, il venait. Et en tout cas, quelques années avant, il m'a dit tu ouvriras pour ma prochaine tournée, restez vivant. Et j'ai dit waouh, c'est cool, c'est mille merci pour ce cadeau. Alors, ce qui se dit souvent après minuit, ce qui se dit dans des circonstances un peu mondaines, on pourrait penser que ça tient pas, quoi. Moi, j'ai appris avec le temps, l'expérience, que ce qui se dit comme ça, de temps en temps, ne se fait pas. Mais avec Hallyday, à chaque fois qu'il m'a dit quelque chose, il l'a fait. À chaque fois qu'il a dit quelque chose, il l'a fait. Et pour nous, ça compte beaucoup, parce que nous, on est comme ça. J'ai été éduqué comme ça. Quand tu dis, tu fais. Autrement, tu dis pas. Et il avait ces codes-là. Et pour moi, c'est très important. C'est pour ça qu'on avait cette amitié mutuelle et ce respect. Ce respect, on n'était pas intime, aidez-moi, mais on savait qui était. Il savait qui j'étais et je savais reconnaître le sacré bonhomme que c'était. Voilà.
Quel regard votre père et votre mère portent sur votre musique ?
Oh, je crois qu'ils sont contents, mais ils sont contents parce que les codes de la musique que je reproduis, ils la connaissent, puisque c'est celles qui m'ont inculqué finalement indirectement, en mettant tous les soirs Joe Cocker, Otis Redding. Et mon oncle aussi écoutait beaucoup Led Zeppelin, Gigi Cale, Eric Clapton, plein de guitares héros, Mark Knopfler et tout ça. Alors bon, bah, c'est sûr que quand ils me voient, ils entendent des choses qu'ils connaissent. Voilà, très certainement.
Manu Lanvin, quelles sont vos influences aujourd'hui ? Comment est-ce que vous écrivez ? Qui vous écoutez ?
J'écoute beaucoup de choses différentes. J'écoute toujours effectivement la musique. Je suis un peu un nostalgique des années 70 et des années avant et tout ça. Mais il y a des choses plus modernes que j'aime. Voilà, souvent des artistes comme ça, Gary Clark Jr. que je trouve super dans le genre. Bon, à la rigueur, Gary Clark Jr. ça reste un peu dans la même tradition du blues, du rock et tout ça. J'écoute aussi même de la musique électronique, il y a des choses qui me plaisent dans ce qui se fait. D'ailleurs, je travaille avec The Avener, Tristan Cazara, pour qui je fais quelques guitares. Mon frère, Saint Lanvin, qui est un DJ qui aujourd'hui commence à émerger. J'aime la musique urbaine, j'ai toujours aimé des projets comme Gorillaz, que je trouve très réussi. J'adore en fait ces projets qui manipulent et manient beaucoup aussi les machines, le sampling, tout ça. Je suis pas un genre de puriste de la musique live et acoustique, il faut absolument que ça soit joué là. Oui, le Davy Blues, c'est ça. Mais les autres univers où la musique est produite différemment m'interpellent énormément.
On va écouter un troisième morceau de musique, Manu Lanvin. Vous avez choisi...
So Come On Down, c'est ça ?
Oui, c'est
avec
ça.
Avec Taj Mahal. Taj Mahal, c'est un des derniers grands bluesman comme ça, américain. C'est un chouette monsieur. On s'est rencontrés sur la tournée Kemmo, qu'il faisait avec Kemmo lorsqu'il a fait escale à Paris. On s'est rencontrés, on a voulu faire quelque chose ensemble, puis ça n'a pas pu se mettre en place rapidement. Alors on a attendu un peu, et puis un jour, sur ce nouvel album, Grand Casino, j'ai commencé à imaginer que je ferais venir plusieurs invités, et je me suis permis de lui envoyer un morceau. J'ai beaucoup pensé à lui quand j'ai écrit ce morceau. J'ai même pas beaucoup, j'ai pensé exclusivement à lui d'ailleurs, parce que je me suis dit, il faut que je retrouve les harmonies de Taj Mahal, je connais tous ses grands classiques, et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui pourrait l'animer, quoi. Et il m'a rappelé 3 heures après lui avoir envoyé un vulgaire MP3 encore en cours de construction, au niveau des arrangements et tout, même ma voix et tout ça, c'était pas encore ça, c'était pas la version définitive, j'entends, et il m'a dit, Manu, avec grand plaisir, je viendrai te donner la réplique sur ce morceau. Donc voilà.
Alors juste après ce morceau, nous allons découvrir une senteur que vous aimez particulièrement, ainsi qu'une photo, puisque vous qui nous écoutez, vous avez remarqué, hein, on a parlé beaucoup musique, on a parlé beaucoup technique, et puis on a un petit peu zappé les photos, les senteurs et les images que vous choisissez habituellement.
Sisters fussing and fighting, the man wants to keep it that way. The TV news is like a bad, bad dream. They say it's getting worse every day. It's about time we all realize everybody wants the same thing. A little bit of peace, love and respect, and some good old harmony. So come on down. So come on down, lean on me if it's better. A world of understanding, baby, that ain't so strange.
C'est Portrait sur Radio Albatros et c'est Manu Lanvin qui est notre invité aujourd'hui. Manu Lanvin, vous avez choisi une senteur que vous aimez particulièrement.
Je parlerai du santal royal, c'est une huile essentielle qu'on trouve au Maroc, parce que c'est celle que j'aime respirer lorsque je me retrouve. Il m'arrive de me retrancher à Marrakech très souvent, et j'ai un petit pied-à-terre là-bas, et j'aime bien quand Touria, qui est la petite dame qui s'occupe de ma maison lorsque j'y suis pas, et que j'arrive, qu'elle me mette cette odeur-là. Je sais pas, il y a un truc que je trouve qui va tellement bien avec les couleurs de cette médina, l'esprit orientaliste comme ça, et je la trouve pas trop envahissante, je la trouve même assez, c'est une odeur assez raffinée, et je me plais beaucoup dans cette odeur. Voilà.
Vous avez choisi également une photo, il s'agit de...
Une photo, je dirais celle de Janis Joplin, j'aime toujours, il n'y a pas beaucoup de photos de Janis Joplin où elle est, comment dire... elle est très souvent souriante sur les photos, mais j'ai celle que tout le monde connaît, qui est même la photo qui est d'un de ses coffrets, parce que je trouve qu'elle reflète tellement les années 70, la folie, les couleurs, les lunettes, et le sourire de Janis Joplin. Janis Joplin fait partie, bien évidemment, des artistes que j'ai beaucoup écoutés. Et dès que je pense aux années 70, j'ai toujours l'image, cette photo de Janis Joplin qui vient tout de suite à l'esprit.
Eh bien, c'est avec cette photo de Janis Joplin que nous allons vous quitter. Merci beaucoup.
De rien,
merci.
Merci beaucoup. Merci. Merci, à bientôt, j'espère.
C'était Portrait, une émission proposée et animée par Claire-Lise Chaubelet.
Chances are, 'cause I wear a silly grin the moment you come into view.